Rabelais, Ronsard et Montaigne même, c'est pour nous encore cette langue mouvante, ce branle de l'ancien français. Nous parvenons aujourd'hui, Henri Van Lier, à un moment de notre littérature où va s'inaugurer le classicisme, c'est-à-dire un formalisme concret, une saisie qui se veut plus évidente, plus nettoyée du monde.
Montaigne, c'est bien l'adieu à l'ancien français, et en effet, vers les années 1610, on entend une sonorité très neuve. Là ! Là ! Pour le dessert, troussez-moi cette tote. Vite ! Chemise et tout ! Qu'il n'y demeure rien qui me puisse empêcher de reconnaître bien du plus haut du nombril jusqu'au bas de la motte. C'est d'une nouveauté stupéfiante. Voilà que, tout d'un coup, l'être humain veut dépouiller tout, obtenir une reconnaissance, une saisie absolue par le regard, et une des premières choses qu'il va exiger, c'est la nudité, et la nudité lisse. Et il est intéressant de comparer ces quelques vers, ou de Malherbe, ou en tout cas de l'école, mais très probablement de Malherbe, puisque c'est attribué à lui par un manuscrit autographe de Racan, le commencement du testament de Richelieu. Richelieu dit « Cette pièce fera le jour sous le titre de mon testament politique ». C'est de Richelieu ou de sa chancellerie, comme on dit maintenant. « Cette pièce sera conçue en termes les plus courts et les plus nets qu'il me sera possible, tant pour suivre mon génie et ma façon d'écrire ordinaire, que pour m'accommoder à l'humeur de votre majesté qui a toujours aimé, convainc au fait en peu de mots, et qui fait autant d'état de la substance des choses » qu'elle appréhende les longs discours, etc. Donc nous nous trouvons devant cette même volonté de reconnaissance, au sens presque militaire du terme. Ce qui va aller très bien avec ce type de saisie, c'est ce qu'on pourrait appeler les balances, les comparaisons. Guette-Balzac écrit, à peu près vers les mêmes époques, « Vous lui parlez, madame, quand elle vous prêche. » Ah bon ? On compare parler, prêcher, et répondant populairement à ses énigmes et distinctement à sa confusion, vous voyez, ça va jusqu'à ce que nous appellerions nous du maniérisme, mais peu importe, nous n'avons pas à juger ça. Nous avons à voir ce qui se passe dans l'esprit humain à ce moment-là. Vous lui rendez pour le moins ce bon office que de l'expliquer à elle-même. Bon, que les bourgeoises vous entendent lorsque les beaux esprits vous admirent, et ce qui est intéressant, c'est qu'on décide que tout cela, en vous, n'a rien que de naturel et de français. Tout d'un coup, le français est établi. Il est établi comme immédiateté. Et je vais reprendre dans le cabinet satirique du Parnasse, où on voit très bien le sujet langagier. Faut-il qu'il nous assigne, et le temps et le lieu ? Il n'a pas dit fouté. C'est Dieu, de Dieu qu'on parle. Mais grossiers que nous sommes, multiplier le monde en langage de Dieu, qu'est-ce donc sinon foutre en langage des hommes ? Cette même immédiation. Et nous retrouvons, chez François de Sales, nous appelons vaine la gloire qu'on se donne, ou pour ce qui n'est pas en nous, ou pour ce qui est en nous, mais non pas à nous, ou pour ce qui est en nous et à nous, mais qui ne mérite pas qu'on s'en glorifie. Et c'est dans son introduction à la vie dévote, c'est lu par des dizaines, centaines de milliers de personnes. Ce sera d'ailleurs lu pendant des siècles. Alors, bien sûr qu'avec cette nudité et cette balance, nous débouchons dans le sentiment de justice. Malherbe a perdu deux enfants déjà, il avait trois enfants, il va perdre enfin son fils, et voici ce qu'il trouve à dire. « Oh mon Dieu, mon sauveur, puisque par la raison, le trouble de mon âme étant sans guérison, le vœu de la vengeance est un vœu légitime. J'ai senti raison, vengeance, légitime. Fais que de ton appui je sois fortifié. Ta justice t'en prie. Et les auteurs du crime sont fils de ces bourreaux qui t'ont crucifié. J'entre pas dans le détail de la mécanique, qui est absolument terrible, où la divinité elle-même est entraînée dans cette saisie des égalités et inégalités entre termes. Et ce côté juridique se retrouve de nouveau dans le cabinet secret du Parnasse. Si nous avions rangé tous nos coups bout à bout, quand nous aurions vécu 15 lustres de vie, nous n'aurions pas foutu 6 semaines en tout. Alors le sonnet continue. Mais déjà l'Occident menace mes journées. Je deviens vieux donc. Mais déjà l'Occident menace mes journées. Ô Dieu, je vous appelle. Aidez à ma vertu. C'est exactement le ton que nous avons trouvé dans la demande pour la vengeance de la mort de son fils. Pour un acte si doux, allongez mes années ou me rendez le temps que je n'ai pas foutu. Et ce jeu va jouer à l'intérieur même de l'œuvre de Malherbe. D'une part, il va y avoir, au moment où il va se marier, il fait des sonnets à Caliste, justement avec une sincérité particulière. Et il est donc un miracle visible. Et il achève, en ce nombre infini de grâces et d'appâts. Qu'en dis-tu, ma raison? Crois-tu qu'il soit possible d'avoir du jugement et ne l'adorer pas? Et voici ce que ça donne dans le cabinet secret du Parnasse. La femme dit, ma foi, cela vous gâte au milieu du repas. Et la finale du sonnet est, belle, vous dites vrai, mais se pourrait-il faire de voir un si beau con et ne le foutre pas? D'avoir du jugement et ne l'adorer pas? De voir un si beau con et ne le foutre pas. Donc, comme nous voyons, le sujet langagier est rigoureusement le même à l'intérieur de Malherbe. Et alors, bien entendu, à partir du moment où vous arrivez ainsi à cette nudité fantastique, cette balance, cette justice, on n'a plus que faire du corps. Et ça peut être d'ailleurs dans le cabinet secret du Parnasse. Qu'est-ce que c'est que ce dessert, troussez-moi cette cote? C'est que je reconnaisse un terrain comme étant absolument clair, net, dégagé, comme un glacis de forteresse. Le corps devient inutile. Et effectivement, dans l'astrée, notre héroïne se met devant un miroir. Ce miroir dont on a dit qu'il pouvait avoir un sens déjà dans la constitution du moi de Montaigne. Il a fait d'ailleurs un voyage en Italie. Le miroir, source de la saisie multiple du moi, dont moins d'un moi physique extérieur, comme celui de Montaigne. Mais dans l'astrée, devant le miroir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer ceci. C'est que je veux être aimé, pourquoi? Eh bien, je veux être aimé dans ma dernière nudité. Et la nudité du corps, ce n'est pas encore la nudité dernière. La beauté du corps, c'est encore quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose aussi qui passe, mais c'est surtout quelque chose d'extérieur. Alors, bref, faisons-nous paraître tel que nous désirons d'être crus. Nous sommes dans l'astrée à peu près autour des années 1610, par la perte d'une chose de si peu de durée que la beauté. À ces mots, Dieu, dit l'auteur, quelle étrange et généreuse action pouvais-je raconter? Et la voici. À ces mots, dis-je, Célidé met la pointe du diamant à son front, et d'une main généreuse se l'enfonça dans la peau. Et quoique la douleur fût extrême, si cela coupa-t-elle d'un côté à l'autre, et grinçant les dents du mal que la blessure lui fait jouer, elle en fait de même à ses joues, et se fait de chaque côté 3 ou 4 profondes cicatrices, si longues et si enfoncées, que véritablement il ne lui restait plus rien de la beauté qu'elle soulouait avoir. Elle est arrivée à son essence, et si quelqu'un continue à l'aimer, ce sera pour elle-même, je ne définis pas évidemment elle-même, mais ce ne sera plus pour toutes ces choses extérieures qu'est le corps, et certainement pas les multiplicités, les colifichets du corps, ou toutes ces singularités qui avaient passionné Rabelais et particulièrement Montaigne. Alors, nous sommes au moment où Bérulle va pouvoir, le futur cardinal de Bérulle, va pouvoir instituer toute une série de choses en même temps. Tout d'abord, les salons. Il fréquente le salon de Madame Acari. En même temps, l'oratoire. Et qu'est-ce que c'est que l'oratoire? C'est l'enseignement du français. Dans des espèces de lycées ou collèges. Ben, vous n'imaginez pas, on n'imagine pas des collèges ou des lycées qui enseignent le français de Villon. Ni des lycées pour le français de Rabelais. Comment peut-on faire un lycée sur le français de Montaigne? C'est impossible. Mais il y a moyen de faire un lycée sur, et se pourrait-il faire de voir un si beau con et ne le foutre pas? Là, tout d'un coup, il y a une netteté qui peut être partagée collectivement, et vous savez déjà, quand vous lisez une phrase comme celle-là, que quelques années plus tard, il y aura une académie qui va veiller à la continuité, à la stabilité de la langue, c'est ce qui va se passer entre les années 30 et les années 36-37, et puis bien sûr aussi, ah, et c'est là que Bérulle, évidemment, devient plus difficile à saisir, c'est le moment aussi où s'institue la pensée, une certaine pensée qui va devenir la pensée cartésienne, mais qui est d'abord la pensée de Bérulle, qui lui écrit vers les années 1610-1620. C'est-à-dire que devant tout ce que je fais, tout ce que je peux ressentir de mouvement extérieur, il y a quelque chose qui répond dans une intériorité qui est dégagée de toute cette multiplicité et où je colle à un principe que je vais appeler, entre guillemets, divin. Dieu. D'une certaine façon, il n'y a jamais que le dieu de la chanson de Roland, il y a le dieu de Rabelais, tout à fait différent, il y a le dieu de Villon, il y a le dieu de Montaigne, je ne sais pas très bien, ça c'est extrêmement lointain. Le dieu de Malherbe, ce sera sans doute très lointain aussi, mais il y a le dieu de Bérulle, qui va être, par, à certains égards, très proche du dieu de Descartes. Et c'est là qu'il faut se défier toujours historiquement. Quand on parle de Bérulle, on dit, vous voyez, en mélangeant ainsi l'action extérieure et une intériorité très intense, il va rejoindre la devise de saint Ignace de Loyola, il fréquente les jésuites et dans la création de son ordre de l'oratoire, il va reprendre certaines choses à l'enseignement, dit-on, des jésuites, et cependant c'est pas tout à fait ça. Chez saint Ignace, le inactionné contemplativus, c'est beaucoup plus, le contemplatif dans l'action, est beaucoup plus multiple dans l'action extérieure. C'est quelque chose qui vient quasiment avant Montaigne, hein, c'est en plein temps de la Renaissance. Ici, au contraire, nous avons une action très forte, très soutenue, mais qui en même temps garde une intériorité que l'on pourrait dire ponctuelle et silencieuse. Donc, nous sommes en train de voir comment Descartes va devenir possible sur un soubassement très large qui est toute cette époque de Malherbe. Alors il y a une question, et qui est de dire, très bien, nous venons de voir un certain nombre de textes du cabinet du Parnasse, mais est-ce qu'il y aurait chez Malherbe, est-ce qu'il y aurait ne serait-ce qu'un grand poème, un petit peu comme le souhait que son or se crêpe lentement de Ronsard. Est-ce qu'il y a un équivalent de ça? Sans doute que oui. Et nous allons maintenant le parcourir. En ayant derrière nous tout ce que nous avons vu, à savoir cette nudité, cette balance, ce sens de la justice, et en même temps cette espèce d'éloignement du corps, n'espérons plus mon âme aux promesses du monde. Ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est probablement le premier mot, les deux premiers mots. C'est le retrait. Une espèce de retrait, n'espérons plus. Mais un retrait qui est un retrait légèrement en hauteur. Et qui, effectivement, après s'être opéré, laisse retomber aux promesses du monde. Sa lumière est un verre. Et sa faveur, une onde, que toujours quelque vent empêche de calmer. Malherbe est un des principaux maîtres du rythme. Est-ce que c'est ça que Boileau a voulu dire? Le premier en France fait sentir dans les vers là une juste cadence. Je ne sais pas si c'est ça qu'il visait, mais ce qui est certain, c'est que c'est un des plus grands maîtres de la cadence française. N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde. Sa lumière est un verre, et sa faveur une onde que toujours quelque vent empêche de calmer. Nous connaissons un peu ce genre d'effet. Qu'amour oxyde son rayon, avait dit Villon. Et après cette tempête, cet éboulement général de tout ce qui est l'extériorité, quittons ces vanités. Après, n'espérons plus, en retrait. La même chose, pas tellement dans le sens du mot, non, dans sa phonie déjà. Quittons ces vanités. Même quelqu'un qui ne saurait pas le français aurait déjà compris. Lassons-nous de les suivre. Chaque fois, donc, le retrait en hauteur, et après, ce double « quittons » 1, 2, « ces vanités » 1, 2, 3, 4, puis le mouvement circulaire « lassons-nous de les suivre » 1, 2, 3, 1, 2, 3, la force extraordinaire de « c'est Dieu qui nous fait vivre » 2, 4, c'est Dieu qu'il faut aimer. Bien entendu, on aurait pu le dire en rime bretonne, que toujours quelque vent empêche de calmer. Quittons ces vanités, lassons-nous de les suivre. C'est Dieu qui nous fait vivre, c'est Dieu qu'il faut aimer. En vain, c'est Dieu qu'il faut, le F de faux, repris sur en vain, avec l'insistance pour nous des deux nasales, mais probablement la prononciation de l'époque était un peu différente. Il serait bon de le faire dire toutes ces choses par des Canadiens qui ont encore une certaine continuité avec le français du XVIIe siècle. En vain, enfin je vais le dire à la moderne, pour satisfaire à nos lâches envies. Donc nous allons avoir un mouvement à la fois incroyablement lent à certains moments, mais qui a une sorte de vitesse interne. Ce n'est plus du tout là pour le dessert, troussez-moi cette cote. J'aurais pu d'ailleurs faire remarquer à ce moment-là ce là qui est complètement différent du qui ça, qui là, chez Ronsard par le Saint Vagabond, et qui était exactement la Renaissance. En vain pour satisfaire à nos lâches envies, position de voix extraordinaire, nous passons tous ces immenses donc lassons-nous de les suivre, nous passons près des rois, peu importe, tout le temps de nos vies à souffrir des mépris et ployer les genoux. Et Racan voulait transformer ployer en plier. Malherbe l'a laissé dire parce que visiblement il a gardé génialement à souffrir des mépris et ployer les genoux. Alors comme on voit, il y a une sculpture là-dedans. Comme nous rencontrions la sculpture dans la chanson de Roland, Carles Lirès, il y avait une massivité, ou bien sur le mouvement d'épaule, la teste penchée, donc le mouvement d'épaule dos au moment de mourir. Ici, il y a aussi une sculpture extrêmement essentielle. Mais au lieu de travailler par plein et par vide, comme au moment de la chanson de Roland, ou encore dans dans Tristan et Iseut, on travaille ici, au contraire, par contour, à souffrir des mépris et ployer les genoux. Et puis, les vers les plus terribles à peu près de notre langue, ce qu'ils peuvent n'est rien. Ils sont comme nous sommes. Véritablement hommes et mères comme nous. Donc c'est fait avec rien. C'est fait avec les mots les plus bêtes de la langue. Ce qu'ils peuvent n'est rien, rien de plus idiot que ça. Ils sont comme nous sommes, véritablement hommes, et meurent comme nous. Et c'est, ce sont des vers d'une force de cadence interne, et puis d'écarts sonores. Bien entendu, nous ne connaissons plus les écarts sonores du XVIIe siècle. Mais les écarts sonores qui nous restent sont quand même fabuleux. Alors tout d'un coup, retournement. Ont-ils rendu l'esprit? Ce n'est plus que poussière que cette majesté si pompeuse et si fière, dont l'éclat orgueilleux étonne l'univers. Étonné, c'est frappé de la foudre, on disait bien. De nouveau, le grand éboulement. Donc, une capacité extraordinaire de prendre la hauteur pour descendre progressivement. Et dans ces grands tombeaux, où leurs âmes hautaines font encore les veines, ils sont mangés des vers. Donc on ne garde quasiment plus de choses matérielles, de choses sensibles, mais les quelque chose sensibles qu'on garde sont d'une force extraordinaire. Et dans ces grands tombeaux, où leurs âmes hautaines font encore les veines, ils sont mangés des veines. Et puis, terminaison. Là se perd de ses noms, de maître de la terre, d'arbitre de la paix, de foudre de la guerre. Comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteur, et tombent avec eux, d'une chute commune, tous ceux que leur fortune fait jouer leur serviteur. Je suppose que tout le monde a remarqué à quel point les mouvements des strophes se renvoient à eux-mêmes. C'est toujours exactement une même topologie. Topologie qui se trouve dans une autre paraphrase de quelque chose de beaucoup moins fort, mais où on la retrouve quand même. Ô sagesse éternelle, bon. À qui cet univers? On passe de plus en plus à l'univers. Justement, c'est plus du tout cette espèce de monde où tout va. Oui, le monde, lui, va dans tous les sens. Mais l'univers, il est totalisable sous le regard. Doit le nombre infini des miracles divers qu'on voit également. Voilà, tout le XVIIe siècle. Sur la terre et sur l'ombre, qui sont rassemblés. Mon Dieu, mon créateur, Dieu n'est plus le plasmateur de Rabelais. Il devient le créateur, celui qui fait de rien, et ça va devenir absolument décisif chez Descartes, que ta magnificence étonne tout le monde, et voilà, la topologie, et que le ciel est bas au prix de ta hauteur. Alors, bien, c'est intéressant parce que beaucoup de choses semblent indiquer que Malherbe n'était pas du tout un fervent croyant. Donc, quand on a tout ce jeu autour de Dieu, c'est pas du tout Descartes ou Corneille que nous allons rencontrer, chez qui la croyance est véritablement intrinsèque au système. Ici, au contraire, on a l'impression que c'est un thème, c'est un prétexte littéraire, mais justement, c'est un prétexte littéraire qui va permettre de rejoindre la topologie différentielle profonde du sujet langagier qui est celui de Malherbe, qui est celui de tout le monde autour de lui et dont nous avons sans doute encore conservé quelque chose aujourd'hui. Alors, bien sûr que ce genre de littérature va trouver son point culminant, plus encore que dans la louange de Dieu, dans la louange qui est en fin de compte un affermissement de l'univers politique. Et nous pouvons peut-être simplement lire la fameuse pièce après la prise de La Rochelle, où tout d'un coup, Malherbe en tout cas, ceux de son parti croient qu'ils vont respirer. Donc, un nouveau labeur à tes armes s'apprête. Alors, on va voir le mouvement cumulatif extraordinaire. Ce n'est plus une messe n'espérons plus d'office. Non, nous partons du sol à peu près, cette fois-ci. Et donc, un nouveau labeur à tes armes s'apprête. Prends ta foudre, lui, et va comme un lion donner le dernier coup à la dernière tête de la rébellion. Fais choir en sacrifice aux démons de la France les fronts trompés levés de ces âmes d'enfer, et n'épargne contre eux pour notre délivrance ni le feu ni le fer. Assez de leur complot, l'infidèle malice a nourri le désordre et la sédition. Quitte le nom de juste, ou fais voir ta justice en leur punition, etc. Il est tellement sûr de son coup que maintenant, il sait qu'il va mourir. Il est vieux, mais il sent avec une, on dirait avec une sûreté totale, la force de ce qu'il a fait. Quand tu dis Arakan, écoutez, vous savez, oui, nous, c'est pas important, les poètes. Attention, il le dit généralement, hein. Il leur dit, vous et moi, nous avons été des grands arrangeurs de syllabes. C'est ça, le sujet langagier. Qu'est-ce qui se passe dans n'espérons plus? C'est parce qu'il dit, on s'en fiche. C'est la structure et la passion qui y passent. Alors voilà. Il est tellement sûr de son coup que je suis vaincu du temps. Je cède à ses outrages. Mon esprit seulement exempte sa rigueur, a de quoi témoigner en ses derniers ouvrages sa première vigueur. Alors écoutons ça donc. Hein. Les puissantes faveurs dont Parnasse mena, le mois va revenir tout le temps, non loin de mon berceau commencèrent leur cours. Je les possédais jeunes et les possède encore à la fin de mes jours. Et plus intéressant, de se rendre compte que ce qui s'est passé là, cette transformation d'une langue par un homme, c'est quelque chose d'aussi fantastique que ça. Donc la création d'une nouvelle langue par un homme, que c'est quelque chose qui ne pouvait pas arriver à quelqu'un qui avait 20 ans. C'est arrivé, Malherbe naît bien, bien plus tôt. Il a pas tellement loin de la cinquantaine quand commence le 17e siècle. Et donc c'est un travail de quelqu'un d'extrêmement âgé, qui a gardé, bien sûr, toute sa verdeur, mais qui s'est trouvé dans une situation où c'était un homme âgé qui pouvait faire la révolution en question. C'était pas un ronsard, un perceptif immédiat qui pouvait la faire. Ce sont des moments assez uniques dans l'histoire humaine.